tous les blogs, il y a un standard, et c'est le même d'ailleurs pour tout site web, le standard juridique. Nous sommes avec Alain Andorneau, avocat au barreau de Toulouse, que nous avions déjà eu dans CPU, dans notre émission sur les sexbots, mais c'est pas le sujet. Maître, quel est le statut légal des blogs en France ?
Alors, le statut des blogs, vaste question. Aujourd'hui, très simplement, les blogs relèvent pour l'essentiel de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, puisque toute personne qui publie sur un blog est tenue par cette loi de 1881, qui a été un petit peu ritualisée. Mais le fond, c'est la même pour un blogueur que pour quelqu'un qui écrit dans un journal.
Quels sont les risques juridiques ?
Alors, les risques juridiques, il faut les analyser à plusieurs niveaux. Il y a tout d'abord le risque pénal, puisque c'est celui que l'on craint le plus, mais c'est pas le seul. Risque pénal, il faut évidemment faire attention au délit d'injure, au délit de diffamation, à tout ce qui est provocation au crime et délit, et également attention à l'atteinte à la présomption d'innocence, qui est protégée en droit français. Également attention à tout ce qui est provocation à la haine, haine raciale, etc. etc. Donc, le droit pénal encadre quand même un tout petit peu les bornes de la liberté d'expression. Il y a également, il faut faire attention au droit civil pur, puisque le droit civil protège les droits de la personnalité. Vous ne pouvez pas publier sur un blog de photos d'une personne sans le consentement de cette personne, ou publier d'informations relatives à la vie privée d'une personne sans avoir préalablement obtenu son consentement. Voilà, pour rester sur les principes, après il y a tout un tas de dégradés qui sont un petit peu complexes à évoquer ici. Il faut faire attention également au droit du travail. Parce que si vous éditez un blog pour relater votre vie au travail, vous savez qu'il y a un principe de loyauté dû envers votre employeur. Et si jamais votre employeur tombe sur votre blog alors que vous dites des choses pas forcément très sympathiques sur votre employeur ou sur vos collègues de travail, en vertu de ce principe de loyauté, vous pouvez recevoir une lettre recommandée, être convoqué à un entretien disciplinaire ou des choses un peu plus désagréables. Donc attention, blogueur salarié, à la manière dont vous parlez de votre vie professionnelle sur votre blog. L'idée pour se protéger, c'est de rendre les choses parfaitement non identifiables en masquant les noms, en les maquillant et en vraiment créant une césure entre ce que vous dites et la réalité des faits tels que vous les avez vécus. Il faut également faire attention à la propriété intellectuelle. On n'y pense pas assez souvent, mais le délit de contrefaçon peut atteindre les blogs. Vous avez trouvé une très belle photo sur un site et vous décidez de la publier sur votre blog. Attention, avez-vous demandé l'autorisation à l'auteur de la photo pour utiliser cette photo sur votre site, enfin sur votre blog, puisqu'un blog est un site internet. Avez-vous eu cette autorisation ? À défaut d'autorisation, attention, le code de la propriété intellectuelle risque de se rappeler à vous et vous encourez donc le délit de contrefaçon qui est puni. Alors, ça peut être assez lourd, mais c'est toujours très désagréable.
Est-ce qu'il y a des mentions à publier ? On parle souvent de mentions légales.
Les mentions légales, il y en a toute une ribambelle et le RGPD est passé par là pour nous rappeler la litanie de choses qu'il peut y avoir à dire. Pour l'essentiel, il faut distinguer deux cas d'école. Premier cas, vous êtes un blogueur non professionnel, auquel cas vos obligations sont extrêmement limitées en termes d'identification. Vous devez indiquer quel est l'hébergeur de votre blog, donc son nom, son adresse, éventuellement son numéro de téléphone s'il est accessible. Vous n'avez pas en revanche à dévoiler votre identité. Vous pouvez simplement utiliser votre blog sous votre pseudonyme, c'est parfaitement accessible. Ensuite, il faut se plier aux règles du RGPD, notamment en termes d'utilisation des cookies, etc. Si vous êtes blogueur professionnel, en revanche, les mentions sont un peu plus exigeantes, puisque outre les mentions obligatoires telles que visées par le RGPD sur lesquelles je ne m'étendrai pas, vous avez notamment l'obligation de faire apparaître votre véritable identité, ainsi qu'un moyen de pouvoir vous joindre, adresse mail notamment, afin que si vous publiez un contenu désobligeant ou qui apparaît désobligeant à l'égard de quelqu'un, que cette personne puisse vous contacter pour vous adresser son droit de réponse, puisque la loi prévoit que la personne doit pouvoir répondre à des choses qui ont été écrites contre elle ou qui pourraient être mal interprétées.
Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre ?
La principale précaution, c'est, à mon sens, de prendre de la distance. Bien cloisonner sa vie privée et son blog, on peut se répandre sur son blog et raconter sa vie privée à condition de se protéger, de protéger ceux dont on parle sur le blog, les anonymiser, ne pas utiliser les vrais noms ou utiliser des pseudonymes, éviter les photos trop personnelles. On sait, et Facebook nous l'a appris, et c'est parfaitement transposable au blog, les ravages que peut faire le fait de dévoiler toute sa vie privée sur la toile. C'est accessible à tout le monde. Quelqu'un peut très facilement recouper les informations et vous faire énormément de mal. De même, dès lors que vous utilisez du contenu qui provient d'un site tiers, posez-vous la question, est-ce que ce contenu est libre de droit ou est-ce qu'il suppose une autorisation? Si oui, de qui? Et est-ce que j'ai cette autorisation pour publier le contenu?
Merci, maître Alain Andorno. Maître, est-ce que vous avez un blog?
Un quoi?